Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors nous voyageons à la fois dans notre beau pays, hein, dans les Pyrénées, mais on voyage aussi dans le temps, hein, puisque la semaine dernière nous étions au temps un peu avant, un an avant la Révolution française, en 1788.
Oui,
Voilà,
Philippe,
et alors que la Révolution était en 1789, si je me souviens bien de mes cours
oui,
d'histoire.
non, non. C'est moi qui, dans ma tête, ai pensé un siècle, alors que vous aviez bien dit un an.
Alors aujourd'hui, nous allons à Biert, hein, donc un village de l'Ariège situé près de Massat.
C'est un village que j'ai découvert il y a quelques années, car j'ai été invitée à y donner une conférence. Je peux vous assurer que l'été, Biert est animé et que l'on y rencontre des gens passionnés par les Pyrénées et les lieux qu'ils habitent.
Biert est une commune relativement jeune, car jusqu'en 1851, elle faisait partie de la commune de Massat. Je crois que la devise de Biert est « Tous ensemble, nous y arriverons ».
Devise d'autant plus belle, effectivement, qu'il doit y avoir à Biert quelques 300 habitants.
Voilà, et l'union fait la force.
Oui.
L'auteur Roger Toulouse, voilà, l'auteur Roger Toulouse a mené une carrière de professeur d'espagnol en divers lieux d'Occitanie, mais il n'a jamais oublié ses racines, l'Ariège et le village de sa famille maternelle. Bien sûr, on parle de Biert. Hein.
Oui.
Afin de combattre l'œuvre destructrice du temps à travers des témoignages, il fait revivre ce village et vous avez retenu des pages sur les travaux agricoles. Alors là, je pense que les plus anciens vont absolument apprécier. Fermez les yeux, mettez le son légèrement plus fort et laissez-vous porter. Merci Yann.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Roger Toulz est né en 1934. Il revient souvent à Biert, où sa famille maternelle est implantée depuis longtemps. Lui-même se sent profondément enraciné dans ce terroir du Haut-Couserans. Dans un ouvrage intitulé « À Biert, village d'Ariège autrefois », il évoque la vie que l'on y menait au début du siècle dernier. Le texte retenu évoque certains travaux agricoles, le dépiquage, les coupes de bois, la fenaison. Le dépiquage, écrit Roger Toulz, s'effectuait soit au prat bézial, soit sur une des places du village, le plus souvent devant l'église. Le sol de terre battue était tapissé de bouses de vache mêlées de purin que l'on étendait la veille afin d'obtenir une surface protectrice sèche et dure le jour de l'opération. Chaque famille choisissait alors un emplacement pour battre le grain, qui au fléau, manœuvré surtout par les hommes, qui au latarou, instrument rudimentaire très flexible, formé d'une branche de noisetier semblable à celle qu'escaladent les haricots grimpants. Le mouvement des bras suivait le rythme imposé par l'onomatopée « ti, ta, ta » ou par la cantilène « 7 fois 8 ». On attendait que le vent souffle pour vanner à l'aide d'une crible. Les petits récoltants, notamment dans les hameaux, confectionnaient des mini-gerbes qu'ils utilisaient pour couvrir les toits après en avoir extrait le grain en les frappant sur une pierre. Les arbres étaient abattus à la hache. Dans les rares sites plats ou aisément accessibles, on utilisait un passe-partout pour débiter les troncs. En zone de forte déclivité, ceux-ci, après ébranchage, étaient lancés dans les lits abrupts des ruisseaux jusqu'aux lisières abordables par les charrettes. Rude tâche, au cœur de nos bois très en pente, de les dégager en cas de heurte contre des roches, de les remettre dans la bonne direction, quand un obstacle imprévu les en déviait, et de les manipuler à l'arrivée. Vers 1910, la route de Saint-Girons à Massat n'était guère fréquentée. Seules, trois ou quatre voitures à cheval l'empruntaient chaque jour. Les manœuvres périlleuses se réalisaient donc aisément entre deux passages. Toutefois, par mesure de prudence, un jeune guetteur se hissait sur quelques points stratégiques pour parer à toute éventualité. Le plus souvent, les troncs entiers, acheminés sur des charrettes, n'étaient débités qu'à Bière. On les sciait tout d'abord à la longueur voulue, avec le passe-partout ou la scie à main, suivant leur diamètre, puis à l'aide d'une masse en bois, on fichait dans leur chair des coins de chair pour en tirer des bûches. Le chêne et le hêtre fournissaient le bois de chauffage le plus apprécié. L'unique mesure de capacité pour le bois était la canot, la canne, équivalent à un peu plus de 3 mètres cubes. 3 mètres de long multiplié par 1 mètre de haut multiplié par 1,10 mètre de profondeur, soit la longueur des bûches pour la dernière dimension. Aujourd'hui encore, le bois est livré à la canne et non au mètre cube ou stère. La fenaison. Les années normales ont procédé à la première coupe les derniers jours de juin, avant la fête de Saint-Pierre, 29 juin, alors que le fauchage du regain durait parfois jusqu'en septembre. Seule la faux, munie d'un manche à poignée, était en usage chez nous. Comme la plupart des faucheurs d'alors, mon grand-père portait à la ceinture le coffin de bois contenant la pierre à aiguiser et au fond une infime réserve d'eau. D'un mouvement régulier en arc de cercle, accompagné par les stridulations des crayons, il formait les andins que les femmes défaisaient derrière lui avec une fourche à deux dents, en bois ou en fer, pour étaler l'herbe au soleil. Celle-ci, retournée deux ou trois fois dans la journée, était en général mise en tas le soir. Si elle n'était pas tout à fait sèche, on la disposait pour la nuit en rudolos, amoncellement plus court mais plus haut que les andins. Quand le fil de la lame s'était émoussé au contact des cailloux ou d'objets divers masqués par la verdure, il devenait impératif de le reconstituer en battant l'instrument. L'aïeul s'asseyait alors et avec un marteau frappait de longues minutes la lame, le plus souvent posée sur une sorte d'enclume miniature pourvue d'un pied haut de quelques 30 cm que l'on plantait dans la terre jusqu'à un cran métallique fixé à mi-course ou à défaut sur une pierre dure. Cette obsédante musique, répercutée à l'infini par les échos de la montagne, animait alors nos vallées, où sur les versants les plus escarpés, les faucheurs s'encordaient prudemment, comme des alpinistes. Les propriétaires de parcelles plates ou faciles d'accès chargeaient directement le foin sec sur les charrettes, toutes peintes en bleu clair et tirées par des vaches. Dans les endroits scabreux ou à l'écart d'un chemin charretier, la tâche s'avérait plus ardue. Il fallait faire des fagots composés de 5 ou 6 rouleaux liés avec des cordes retenues par des attaches en bois pour les monter ou les descendre plus aisément jusqu'au point où stationnait le charreton à bras. Il y a tout juste un siècle, les travaux agricoles se pratiquaient sans mécanisation. Cela nous paraît un temps révolu, et pourtant il n'est guère si éloigné du nôtre. Nos grands-parents ou arrière-grands-parents l'ont connu, ont peut-être participé au dépiquage, à la fenaison, comme le rapporte Roger Tools. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « À Bière, village d'Ariège autrefois », ouvrage publié en 2001, par les éditions Edith, l'association Bière 2001, créée pour commémorer le 150e anniversaire de l'institution en commune du village de Bière, a contribué à la réalisation de cet ouvrage.
Je disais que les anciens devaient être sûrement heureux, hein, même si ça doit leur, pour certains, leur faire repenser des moments qui était dur, parce que à l'époque, oui, l'agriculture n'était pas aussi mécanisée qu'aujourd'hui, et c'était dur, oui. Et on oublie souvent à quel point les travaux des champs étaient, on le disait, pénibles. Il n'y a pas si longtemps que cela, tout se faisait à la main. Et les villages, au début du XXe siècle, étaient encore des rues en terre battue.
Oui, comme à Bierte, on vient de le voir. Puisque à Bierte, le goudronnage des places et des rues date seulement de 1960.
Parce que nous, on a toujours l'impression que ça a toujours été goudronné, mais effectivement, non, c'était pas le cas. Alors, il y a bien sûr pas d'éclairage public avant le début du siècle, où on installe des réverbères à pétrole. Et la personne qui était chargée d'allumer les réverbères ne le faisait pas les nuits de pleine lune, par souci d'économie.
Et oui, on a oublié tout cela.
Oh là là.
Dans les maisons à la même époque, on s'éclaire avec des lampes à pétrole.
Alors, il y a de l'eau courante dans le village, mais que à partir de 1948.
Et les fontaines publiques, là, ça m'a surprise, ne datent que de 1911-1912 aussi.
Incroyable. L'auteur écrit que le foin sec est chargé sur des charrettes, toutes peintes en bleu clair. On peut se demander pourquoi cette couleur.
Oui, alors, le bleu clair était, paraît-il, censé éloigner les mouches et les thons. À moins que la peinture, précise Roger Tools, il le précise en note, n'ait contenu un répulsif.
Ah oui. Voilà, oui. Mais s'il y en a qui connaissent aussi la réponse exacte, on est preneurs. Alors la semaine prochaine, Anne, nous irons faire un peu de sport dans les Pyrénées avec notre fournisseur de confitures, surtout de
framboises.
Bien sûr, Jean-Paul Abadi.
Pour ne pas le nommer.
Et on le salue s'il nous écoute. Avant de se quitter, Anne, dans votre actualité, il n'y a pas quelque chose qui a retenu votre attention? Vous n'avez pas reçu un prix?
Ah oui, j'ai reçu un prix, Philippe, le premier prix du roman, pour mon roman d'ombre et de lumière, qui avait d'ailleurs déjà été primé au Salon du Livre de Saint-Lary. Et le prix est remis le 23 mars à Saint-Orens-de-Gameville, près de Toulouse, par l'association Les Arts Littéraires.
Ah ben bravo, alors être primé deux fois pour votre livre, on rappelle le titre de ce livre.
D'ombre et de lumière, et il est publié par les éditions Lucane.
Voilà, et on en avait parler puisque vous aviez fait une émission spéciale avec Mathias Terrier.
Oui,
c'est et puis on exact. Aura peut-être des surprises dans le futur avec ce livre sur Radio Présence.
Peut-être. Non, ça sera avec un autre livre, Philippe.
Ça sera avec un autre livre,
oui.
D'accord.
Avec Les cailloux seront plus doux,
voilà.
Sous vos pas.
Exactement, pardon, j'ai confondu, mais voilà, il y a quelques surprises pour les auditeurs de Radio Présence. Merci beaucoup, Anne Lasserre, à la semaine prochaine et encore félicitations pour ce prix.
Merci, Philippe, à la semaine prochaine.